Paris pour une petite heure d'optimisme, d'enthousiasme, d'authenticité. Vous écoutez Onde Positive et je reçois cette semaine Mireille Deltour. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Mireille, c'est un soleil. Et c'est pas parce que ça rime que je dis ça, c'est parce que vraiment c'est ce que je ressens. Mireille, tu as 47 ans, tu es ariégeoise, tu travailles sur toute la région Midi-Pyrénées où tu proposes ton expertise et tes conseils en géobiologie et en feng shui. Et tu viens nous donner aujourd'hui tes messages positifs et nous conseiller d'être attentifs aux synchronicités. Alors ma première question, qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité ?
Alors c'est un mot, je crois, qui a été posé par un psychiatre, je crois que c'est Jung qui a posé ça pour rapprocher en fait ce qu'on appelle les coïncidences. Les coïncidences, en fait, c'est des choses qui peuvent arriver dans notre vie et qui peuvent nous amener à tenir compte d'un fait ou d'un sujet sur lequel on n'aurait pas forcément prêté une attention particulière. Parfois, on entend un mot, puis ce mot, on va l'entendre deux ou trois fois en quelques jours, et on se dit, tiens, c'est étonnant. Et ben, c'est ça, en fait, les coïncidences. Et ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être prêter une attention particulière à ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qui se met sur notre chemin et c'est pas pour rien.
D'accord.
Et voilà, enfin, en tout cas, moi, mon approche de la synchronicité, parce que je trouve que c'est vraiment important, et plus on en tient compte et plus on se rend compte qu'il y a des choses qui se mettent sur notre route qui sont intéressantes et importantes.
D'accord. Donc il s'agit de regarder autour de nous, d'être attentif à ce que l'on perçoit et de voir si par hasard la vie ne serait pas en train de nous emmener, nous envoyer des signes.
Voilà, c'est ça. Mais ça peut être vraiment pour tout, hein, pour notre vie personnelle comme professionnelle. Et c'est des petites choses, mais c'est des mots. Ça peut être à la radio aujourd'hui, ça peut être dans un journal, ça peut être un collègue, ça peut être à la télé, enfin n'importe où. Donc les faits n'ont rien à voir ensemble, mais à un moment donné, quand même, pourquoi notre intention s'est portée là-dessus, c'est qu'il y a une importance. Et il faut savoir vers quoi ça va nous amener. Donc, on l'observe et puis à un moment donné, on va trouver la réponse.
D'accord. Alors toi, des synchronicités, tu en as vécu plusieurs dans ta vie et c'est justement ce dont on va parler là pendant l'heure qui suit. Mireille, tu m'as raconté que tu n'as pas aimé ton enfance et ton adolescence.
Oui, c'est vrai.
C'était une période où tu te sentais angoissée.
Voilà, j'étais pas à l'aise avec moi-même. J'étais pas bien, en fait. J'ai l'impression que j'ai jamais été vraiment. On disait toujours que j'étais assez mûre, et en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais été vraiment un enfant ou un adolescent. En fait, que j'étais un adulte
avant l'heure.
Oui. Et puisque je me suis, je le dis avec le recul, hein, parce que maintenant, en étant adulte et parent, voilà, c'est plus ce recul-là qui me fait dire ça. Mais disons que j'étais pas bien dans cette vie. Je voyais pas du tout la vie allait mener, quel avenir je pouvais avoir, et donc c'était un peu compliqué à vivre au quotidien.
D'accord. Voilà. Tu dis que tes copines, elles avaient des idées, elles savaient ce qu'elles voulaient faire, et toi non. Tu voyais qu'un gros nuage noir.
Voilà, c'est ça. Je voyais mon avenir complètement bouché, en fait, sans rien. Je voyais pas du tout où aller pouvoir mener cette vie. Voilà, il y avait pas vraiment d'intérêt de quoi que ce soit. Et quand on est adolescent, c'est quand même quelque chose qui est pas très agréable.
Ouais. Donc à 17 ans, tu n'allais pas bien du tout. Tu étais quasiment en dépression, hein, on peut dire ça.
Ouais. J'ai passé une année où j'ai arrêté l'école, j'ai fait des cours par correspondance et je me suis renfermée sur moi-même. Et ça a été une période assez difficile. Bon, je sortais aussi ma mère venait d'avoir un cancer. Enfin, bon, c'était des choses. Je vivais des choses un peu difficiles. Quand on est adolescent, on en vit tous. Hein. Mais à un moment donné, il fallait un déclic pour dépasser ça.
Quoi. Ouais. Et le déclic, c'est un jour en écoutant une émission radio.
Oui.
Ouais.
Et j'entends en fait parler de la méthode Coué. Alors je me rappelle pas s'ils avaient dit méthode à cette époque-là, mais en fait ils avaient parlé de ça.
Ouais.
Et dans le principe, moi ce que j'avais retenu, c'est qu'il fallait se répéter un mot ou quelque chose, en tout cas plusieurs fois, jusqu'à ce que ça soit ancré et que en fait on positive à travers cette chose. Et je sais pas pourquoi ça enfin, si, je sais, c'est une synchronicité. Je l'ai entendu plusieurs fois et à partir de là, c'est quelque chose que j'ai utilisé alors de façon impermanente et puis de plus en plus parce que en fait je me rendais compte qu'il y avait des résultats.
Alors comment, par exemple, tu peux nous donner un exemple de ce que tu faisais au quotidien pour appliquer cette méthode Coué?
Alors en fait, je l'appliquais soit sur la mauvaise humeur ou soit sur le mal-être, quoi, le fait de voir tout le temps les choses en noir. Mm-hmm. Et donc en fait, j'allais prendre par exemple, me dire bah tiens, il fait beau, voilà, mm-hmm. il fait beau. Et puis toute la journée, c'était des choses. Je me disais à chaque fois que je commençais à avoir des mauvaises pensées, et ben je me disais bah il fait beau. Et donc en fait, à force de dire ça, ben je voyais toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ouais. Donc ça me permettait de positiver, de m'amener une petite lumière en fait dans la journée. Et puis petit à petit, ben, je l'ai utilisé de plus en plus, quoi.
D'accord. Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Mais ça n'a pas été immédiat, hein. Alors pourquoi j'ai insisté, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas été immédiat. Mais j'ai senti des résultats et des choses qui changeaient au fur et à mesure dans ma façon de percevoir ma vie.
Ouais. Tu m'as dit que ce jour-là, en écoutant cette émission à la radio, tu as eu l'impression que la vie t'a donné un coup de pouce.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aime dans la synchronicité, c'est qu'en fait, je pense que c'est des pistes de choses positives. On en a tous, simplement. À un moment donné, on est tellement dans la noirceur ou des choses qui sont pas très belles, ou en tout cas, on a l'impression de mettre tout en noir, mm-hmm. qu'on les voit plus. Et je trouve que cette méthode, après, elle a ses limites, hein, bien oui. sûr. Hein, elle peut amener, en tout cas, à se dire, voyons les choses du bon côté, mm-hmm. Et essayons, en tout cas, de les voir du bon côté.
D'accord. Donc, tu continues ta vie avec cette méthode-là. Tu vas avoir des enfants très jeunes, oui. vers 20 ans.
Oui.
Et là, ton avenir s'ouvre.
Voilà. En fait, ça, c'est quelque chose aussi, je le savais depuis toujours. J'adorais les enfants. J'étais attirée par les enfants. J'avais pas du tout envie d'en faire mon métier, hein. C'était pas du tout, j'avais pas d'attirance pour ça. Mm-hmm. Mais, il y avait qu'une chose qui était importante pour moi, c'était d'avoir des enfants. Donc, c'est pas étonnant que je les ai eus, très jeunes comme ça.
Ouais.
Et à partir de là, je pense que c'est à travers leur avenir, en fait, que le mien, s'est ouvert. Mais à partir de là, j'ai pu construire ma vie, c'est-à-dire professionnellement, voilà, faire d'autres choses, des formations, parce que peut-être j'avais un but qui était ouais. Qui était mes enfants, quoi.
Ouais.
Donc c'est et puis parce que je pense que je suis rentrée à ce moment-là dans le monde adulte et que ça a été pour moi quelque chose de très important. Là, je me suis sentie vraiment à ma place à ce mmh. moment-là.
Il y avait au fond de toi une croyance que tu allais mourir à 25 ans.
Oui.
Tu sais pas pourquoi aujourd'hui, tu ne te l'expliques pas, et avec l'arrivée des enfants, bah cette croyance, elle part.
Elle part. Alors ouais. elle part, mais quand j'ai passé entre 25 et 30 ans, j'ai quand même eu des doutes sur le fait, en me disant qu'est-ce qui va se passer. Et c'est quand j'ai passé 30 ans, je me suis dit ouf, ça y est,
ouais.
ça y est, j'ai dépassé l'âge fatidique. Donc a priori, ce que je croyais n'était pas vrai, mm-hmm. et tant mieux. Alors pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas du tout d'où ça pouvait venir. Mais en tout cas, j'étais sûre que j'allais pas dépasser 25 ans.
Hein. D'accord. Tu dis aujourd'hui que c'est plus facile finalement de se plaindre, hein, parce que être positif, c'est une gymnastique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que tout ce qui se passe autour de nous, il suffit d'écouter la radio, la télé, c'est tout le temps des informations négatives, mm-hmm. qu'on ne vit pas, hein, parce qu'on parle de gens qui eux sont vraiment dans la misère ou dans la guerre, etc. Et nous, on le vit par personne interposée. Et malgré tout, ben ça nous crée des journées quand même qui sont pas très agréables quand on entend ces informations dès le matin au lever. Donc il faut absolument positiver mm-hmm. tous les jours. C'est une gymnastique.
Ouais. D'accord. Donc c'est ce que tu as fait depuis ton adolescence et jusqu'à aujourd'hui.
Ouais.
T'habituer, prendre des automatismes pour penser positif.
Ouais, voilà,
c'est comme ça que tu ressens.
Moi, j'avais tendance jusqu'à, ben, je pense que si je le lâchais, je le ferais encore, à me lever en étant de mauvaise humeur, parce que je suis pas quelqu'un qui dort bien, donc du coup, je me lève et j'avais tendance à le faire payer aux ceux qui étaient autour de moi. Enfin, ça paraissait logique. Et maintenant, depuis quelques années, je m'oblige, si je me réveille en étant de mauvaise humeur, à sourire. C'est la première chose que je fais. Je me dis, tu souris, mais je le fais physiquement. Hein. Tu souris. Il y a aucune raison d'être de mauvaise humeur. Et à partir de là, mais ça dure quelques minutes, quoi.
Mm-hmm.
Et à partir de là, ma journée, elle va complètement être transformée.
D'accord.
Donc c'est important, plutôt que de se dire je vais passer une journée pourrie, tout va mal se passer, les embouteillages et ceci et cela, ben c'est tout de suite de sourire à la vie et de sourire à tout ce qui va être bien dans la journée, plutôt que de voir tout ce qui va être mauvais.
Mm-hmm. D'accord, c'est un bon conseil. Alors, bon, à 20 ans, tu as tes enfants et puis tu commences ta vie professionnelle.
Oui.
Tu vas dans un BIJ, un bureau information jeunesse, pour leur demander de t'aider à trouver un emploi. Et il se trouve qu'ils vont t'employer.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc, je rentre, je cherche, je trouve pas. Et puis, on me propose en fait un poste. Donc, c'était un contrat aidé. Hein. Mm-hmm. C'était sur un contrat emploi solidarité à l'époque. Hein. Ça venait juste de démarrer. Hein. Et donc, je suis rentrée là. Et puis ensuite, je suis restée 21 ans, j'ai fini directrice du BIJ, et en fait ça a été quelque chose de très important pour moi, parce que à cette époque-là il y avait pas internet, hein. C'est dans les années 90,
ouais.
et toute cette masse d'informations m'a beaucoup aidée en fait à découvrir tout ce qui pouvait exister, toutes les richesses qui pouvaient y avoir, mm-hmm. autant au niveau local qu'au niveau territorial, qu'au niveau national, en termes de formation, d'emploi, et puis aussi parce que c'est de l'accompagnement pour les jeunes, hein,
oui.
les bureaux information jeunesse, et qu'en fait là je me sentais à ma place. Les gens venaient facilement vers moi pour avoir des conseils, c'est toujours le cas, et en fait là c'était quelque chose qui était cohérent avec ce que je pouvais leur proposer.
Mmh. Parce que ton boulot là-bas au BIJ, c'est d'être près des jeunes, hein, les
oui.
écouter pour pouvoir les aider, les orienter, et tu vois que pendant ces 21 ans, tu as des qualités d'écoute. Que les
oui.
gens viennent vers toi.
Oui, voilà, c'est ça. Petit à petit, en fait, je prends conscience de ça, et du coup, je me suis formée aussi pour avoir les limites de ça. C'est-à-dire mm-hmm. qu'à un moment donné, au départ, quand on démarre, on a tendance à répondre avec son propre savoir, qu'est-ce qu'on a vécu, etc. Et puis petit à petit, on apprend à amener des réponses aux personnes pour les amener à réfléchir par eux-mêmes. C'est mm-hmm. ça qui est le plus important. En tout cas, pour moi, c'était ce qui était le plus important. Qu'ils soient en capacité d'aller au bout de leur projet et de les amener par eux-mêmes et pas à travers les adultes ou les conseils d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu et sur lequel, voilà, je pense que j'avais certaines qualités puisque les gens venaient vers moi.
Ouais. Donc, en 21 ans, on fait beaucoup de rencontres.
Oui, énormément, oui.
Et justement, rencontre, c'est le titre du morceau que tu as choisi. On l'écoute, Grand Corps Malade.
C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement, c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé, et franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école, et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté, et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool, et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble, je crois que je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse, et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tensions. Mais vous savez quoi, la détresse, elle a pas de conversation. À un moment sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui dis tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. L'amour m'a dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort, et moi je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment, et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa, mais que quand même il se la raconte. Puis il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines, et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir, j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie, la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y a aucun doute. Et tous les jours, je continue d'apprendre les codes de ma route. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
Encore malade, rencontre. Alors pourquoi tu as choisi ce morceau, Mireille ?
Alors d'abord parce que j'aime beaucoup sa façon de, la façon dont il écrit ses paroles. Vraiment, c'est très poétique. Et puis il a travaillé sur le, sur en fait les rencontres autour des sentiments en fait qu'il a croisé tout au long de sa vie et ce que ça a pu lui apporter en positif, en négatif, en sachant que voilà rien n'était figé et que ça pouvait évoluer dans le temps. Et je trouve qu'elle est vraiment vraiment extraordinaire cette chanson.
Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais. Tout le monde peut l'écouter en se disant « Ah ouais, moi aussi, je suis sur cette route et puis je rencontre tout ça dans ma vie. »
Hein. Surtout qu'il n'a pas forcément une vie facile. Hein. Il a eu un accident, il est quand même resté handicapé. Donc voilà, tout ça, c'est des choses importantes. Mais il a su positiver et trouver aussi, lui, comment... la rencontre, en fait, il le dit à un moment donné avec le papier et le stylo et de se poser. Bon, ça a été le slam parce que c'était par là qu'il passait, mais c'est ça qui lui a permis de réagir dans la vie alors qu'il pensait devenir un grand sportif et que, voilà, c'était la vie, elle l'arrêtait là pour l'amener vers quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ça aussi, c'est une coïncidence très lourde, hein, qui peut analyser maintenant, qui a été difficile sur le coup, mais voilà, il y a des personnes comme ça qui sont arrêtées dans leur cours de leur vie. Eux, ils savent ce qu'ils veulent faire et, et puis finalement, la vie, elle les amène vers autre chose.
Exactement.
Et ils vont pouvoir se réaliser autrement.
Ouais. Alors, ben, toi aussi, hein, tu es sur ta route. Tu rencontres ton avenir après 21 ans de bige. Et tu rencontres ces fameuses synchronicités dont tu nous parlais au début de l'émission. Donc, comment ça se passe ?
Alors en fait, je sentais que j'étais au bout d'un chemin avec le bige, hein, donc j'avais fait quand même beaucoup de choses très intéressantes, mais voilà, je sentais qu'il fallait que ça bouge autrement. Et il se trouve que je reçois une newsletter d'un directeur de crige, comme j'en recevais tous les mois. Et là, à un moment donné, il parle d'une personne qui a changé sa vie, donc elle est partie vers autre chose, et en fait, elle était partie sur du homestaging, donc avait rien à voir. Mais moi, j'avais fait des études en décoration d'intérieur. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller voir ce qui se passe.
Homestaging, c'est quoi ? C'est de la transformation d'habitat ?
Oui, avant la vente d'une maison. Donc en fait on met en situation une maison pour que les gens quand ils rentrent à l'intérieur se sentent tout de suite chez eux en fait. Donc on dépersonnalise et on met voilà en vision une maison jolie, agréable,
etc. Où chacun peut se projeter.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et donc je pars faire cette formation. Bon, je vois que c'était pas forcément ce chemin-là qui était à suivre. Puis elle proposait des modules de formation dont un où elle propose le Feng Shui. Et puis donc je regarde, je suis pas partie faire cette formation, mais je vais chercher sur internet à quoi ça correspond. Je trouve une formation et j'y vais. Et là c'est le déclic immédiat, quoi. Et là je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça a été mais vraiment à la fin de la première journée, j'étais sûre je crois que j'avais jamais été aussi sûre de ma vie de ce que je devais faire. Donc j'ai poursuivi et je suis partie faire donc une école en Bretagne d'expert feng shui. Et là je découvre la géobiologie. qui est partie intégrante du feng shui, mais je trouvais qu'elle n'était pas assez poussée au niveau de l'apprentissage. Donc je pars faire une école de géobiologue ici en Midi-Pyrénées pour compléter en fait cette formation et ensuite mes compétences. Et donc dans le même temps en fait, ben je décide de partir de mon emploi pour me lancer complètement presque à l'aventure, mais en étant tellement sûre que j'étais sur mon chemin que j'ai pas eu de doute. J'en ai eu, mais pas suffisamment pour m'arrêter et me dire non, tu peux pas faire ça, quoi, tu peux pas tout lâcher pour partir là-dessus. Quoi.
Toi, tu dis que tu n'es pas une personne téméraire.
Non.
Et que tu t'es pas du genre à risquer, à changer de vie comme ça sans savoir exactement.
Ouais.
Et que pour toi, c'était vraiment une évidence que tu devais le faire, sinon tu ne l'aurais pas fait.
Ouais. C'était une évidence et je pense que si je l'avais pas fait, les synchronicités elles seraient arrivées mais dans un autre sens, c'est-à-dire ça se serait mal passé. Je savais depuis toujours que je devais pas rester au-delà de quand on est dans un travail, il faut se faire plaisir. Si à un moment donné on n'est plus dans le plaisir, on va mal faire son travail et on va être considéré comme une personne incompétente. Mm-hmm. Et quand on est responsable d'une structure, on peut pas être incompétent. Et j'en ai trop vu autour de moi pour savoir que c'est pas possible. Donc ça c'était hors de question pour moi d'arriver à ce point-là. Et je savais que là j'étais à un point où il fallait que je change d'activité.
Oui.
Je savais pas encore. Heureusement pour moi ça s'est bien passé. J'ai trouvé la bonne direction. Mais je savais qu'il fallait que j'aille vers quelque chose qui soit qui fasse que je continue à me faire plaisir. Voilà, pour moi c'était quand même la priorité des priorités, c'est que on peut pas passer la moitié de sa vie à travailler sur quelque chose sur lequel c'est pas cohérent avec son existence. Donc le choix il s'est fait et même si j'avais toujours été salariée, donc j'avais jamais été à mon compte, j'étais pas dans une famille de personnes qui étaient à leur compte, donc je savais pas ce que ça allait être hein, et malgré tout, je savais que voilà, il fallait que je lâche mes peurs et que je le fasse parce que j'étais cohérente avec moi-même là-dessus.
Ouais. Alors, on parlait d'évidence. C'est un peu difficile à comprendre quand on n'a pas vécu d'évidence ce que ça peut faire.
Ouais.
Et donc, j'ai déjà eu plusieurs invités dans cette émission qui m'ont dit à un moment dans ma vie, ça a été une évidence. Alors, je l'ai fait. À quoi ça ressemble une évidence à l'intérieur de soi? Tu saurais dire avec des mots?
Alors déjà par rapport à ce que je disais quand j'étais adolescente que je voyais un gros nuage noir devant ma vie, ben là c'était comme si en fait ça se déroulait, comme s'il y avait un tapis rouge qui se déroulait devant moi et que c'est voilà, c'était marqué en fait que le chemin il s'ouvrait et devant moi et qu'il fallait simplement que j'y mette toute mon énergie, toute ma bonne volonté et que j'hésite pas parce que c'était quelque chose d'important. Et j'ai lu à un moment donné avant de passer à l'acte, j'avais lu dans un livre, je ne sais plus qui c'est qui avait écrit ça, qui disait « on ne peut pas traverser un précipice en deux petits bonds ».
Mm-hmm.
Et ben c'est exactement ça. À un moment donné, il faut faire un grand saut dans le vide.
Oui.
Voilà. Et donc en faisant ce grand saut, on passe vers autre chose. Et puis ce qui est important, c'est de jamais avoir de regrets. C'est-à-dire que si ça marche pas, si ça avait pas marché, si j'étais pas ça avait pas fonctionné, je serais partie faire autre chose.
Oui.
Mais jamais regretter, jamais. Il y a des choix qu'on peut faire dans la vie. Je veux dire, c'est surtout qu'on vit dans des sociétés où on n'a pas de raison d'avoir des regrets. À ce point-là, il faut y aller, quoi. Il faut tenter les choses parce que sinon on restera là avec des regrets parce qu'on l'aura pas fait. Donc, c'est important.
Alors après 21 ans au Bige, en 2 ans, tu changes d'activité, ce qui est rapide, hein,
oui.
2 ans, et tu vas créer ta pratique d'expert conseil en feng shui et géobiologie.
Oui.
Alors j'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est que la géobiologie. Et puis le feng shui.
Oui. Alors la géobiologie, on va dire que c'est plus orienté sur la santé dans la maison. Donc on va regarder toutes les problématiques qui peuvent être posées, soit au niveau du sous-sol, donc il peut y avoir des failles, des cours d'eau qui passent sous la maison, qui peuvent avoir des problèmes, créer des problèmes pour la santé.
Mm-hmm.
Les champs électromagnétiques, donc l'électricité dans la maison, les hyperfréquences avec la Wi-Fi, les téléphones, les antennes relais, etc.
Ouais.
La forme des maisons. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses à ce niveau-là.
Tout ça peut entraîner un mal-être.
Oui.
pour les habitants.
Mal-être ou maladie. Donc voilà, fatigue chronique, enfin pas mal de choses à ce niveau-là. Donc la géobiologie, ça c'est vraiment ça qu'on va regarder principalement.
D'accord.
Ensuite, sur le feng shui, on va travailler plus ce qu'on appelle sur les aspirations. Les aspirations, c'est tout ce qui fait partie de notre vie. Le travail, les enfants, les projets, la chance, l'argent, etc. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va avoir un regard particulier au niveau de la maison, qui est, la maison est le reflet de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va refléter sur nos murs, en fait, la façon dont on a de vivre toutes ces aspirations. Et à partir de là, on va amener des corrections dans la maison qui vont permettre à la personne de travailler sur elle-même et d'avancer, en fait, sur ses différents projets qui sont bloqués. C'est comme si on lui amenait un regard extérieur de sa propre vie. Donc c'est des choses qui sont difficiles à faire par soi-même, mais quand j'arrive dans une maison, je ne connais pas les gens, je ne sais pas ce qu'ils vivent, etc. Et je peux voir par rapport aux différents secteurs, les secteurs c'est le sud, le nord, l'est, etc. Ce qui se trouve à cet endroit-là, quelles sont les problématiques des gens dans la maison.
Parce que ce qu'ils ont mis dans leur maison, les habitants, c'est ce qu'ils portent aussi en eux-mêmes.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc ça va être par exemple des zones encombrées, donc toute la maison est bien rangée, etc. Puis là, il y a une zone encombrée et elle va correspondre par exemple au travail, ou elle va correspondre à la vie de couple, ou elle va correspondre à quelque chose de la vie de la personne. Et il y a pas d'erreur, quoi. Hein. C'est vraiment... Et c'est pour ça que moi, quand j'avais appris le feng shui, on m'avait dit il faut poser des questions aux gens, quelles sont leurs problématiques. Et moi, je préfère ne pas poser de questions et regarder la maison et amener les réponses par rapport à ce que je vois. Parce que comme ça, en fait, je suis pas influencée par rapport à ce qu'ils sont en train de me dire. Et je me suis jamais trompée jusqu'à maintenant. Je suis pas magicienne. Hein. C'est vraiment avec ce regard posé sur la maison qu'on se rend compte, en fait, qu'on reflète énormément notre vie dans ce qu'on vit, ou dans le choix de nos maisons. C'est-à-dire qu'on va choisir des maisons où il y a lorsqu'on appelle des manques, c'est-à-dire des secteurs manquants, parce qu'il y a un découpage, parce qu'il y a un escalier, un ascenseur, ou parce que la maison elle est faite de cette façon-là. Ce secteur manquant va être manquant dans notre vie.
Inconsciemment, on choisit une maison qui nous ressemble, ou on fait une maison qui nous ressemble.
Oui. Donc l'important, c'est d'aller ensuite corriger ça ou faire évoluer ça. Donc tout le monde n'est pas prêt à le faire au moment où je vais le dire, hein, mais ils vont pouvoir le faire à un moment donné, c'est-à-dire en tenir compte et pouvoir évoluer. Je prends un exemple d'une personne chez qui j'étais allée qui avait eu deux maladies assez graves. Elle avait eu un cancer et puis ensuite elle avait fait un burn-out professionnel. Et dans son secteur santé, elle avait fait une sculpture, parce qu'elle s'était mise à la sculpture pendant qu'elle était malade, d'une femme qui n'avait ni tête, ni bras, ni jambes, et qui était toute cassée tout le long de son corps. Et je lui fais prendre conscience qu'en fait, cette femme, c'est elle. Et elle me dit, c'est vrai que c'est ce que je suis en train de vivre. Mais elle n'était pas prête à l'enlever, cette statue.
D'accord.
Donc elle le sait. Quand elle sera prête, ça veut dire qu'elle aura dépassé un certain stade d'évolution de sa maladie, et qu'à ce moment-là, elle pourra l'enlever. Donc, elle aura fait autre chose, elle sera allée voir des thérapeutes, elle aura fait d'autres choses dans sa vie qui l'amèneront, en fait, vers la prise de conscience que cette statue, maintenant, ça y est, elle avait plus sa place dans cette maison.
D'accord. Donc, aujourd'hui, les gens t'appellent parce qu'ils ont un problème de santé, ou... Quel est leur but ?
Alors, quand ils m'appellent au niveau de la géobiologie, c'est un problème de santé. Quand ils m'appellent, souvent, c'est des fatigues chroniques, des projets qui n'avancent pas, des maux de tête. Voilà, c'est souvent lié beaucoup plus à ça. Quand ils m'appellent pour le feng shui, c'est soit parce qu'ils veulent aménager dans un lieu, faire construire une maison, donc on fait un travail en amont. Là, on essaye de travailler en amont. Soit parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont envie de corriger, ou alors qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui pourraient modifier dans leur vie, mais ils savent pas par quel bout l'attraper. Donc, du coup, ils me font venir et là, on regarde un petit peu au niveau des choses qui pouvaient être modifiées dans la maison et dont ils vont pouvoir tenir compte ensuite dans leur propre vie.
D'accord. C'est ta façon, en quelque sorte, d'emmener du positif chez les gens.
Oui, tout à fait. Alors après, je me rends compte que de plus en plus, les gens, ils attendent de moi... un peu un coaching de vie, c'est-à-dire qu'en fait que je leur dise un peu quoi faire. C'est pas mon rôle, mais je vais toujours revenir à ce que pourquoi je suis là. Je suis sur le coaching de la maison, on va dire. Donc à chaque fois je vais revenir sur l'aide que je peux apporter au niveau de la maison, et puis ensuite les aides extérieures vers qui vont pouvoir se tourner pour travailler sur eux-mêmes. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui sont en attente de qu'on leur dise quoi faire ou comment faire, enfin qu'il y a un suivi. suivi. Donc, je vois bien que pendant... Parce que moi, je reste disponible dans le temps, c'est-à-dire après l'expertise, je fais un compte-rendu, ensuite on en parle, et ensuite je leur dis, vous pouvez me rappeler dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et voilà, pour que ça puisse continuer à évoluer. Et je vois bien que pour certaines personnes, elles vont m'appeler énormément pendant le mois qui va suivre, en me donnant en fait l'évolution ou en me posant des questions, parce que elles attendent de moi une aide beaucoup plus importante que celle que je pourrais leur apporter.
Oui, quoi. Les gens ont besoin des autres, ont besoin de la relation à l'autre. Alors justement, on écoute ton deuxième choix musical, Toi et moi, trio.
Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin,
menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger.
Ce matin,
rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Ce matin, il fait presque beau, ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour, avec toi mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Trio, toi et moi, qu'est-ce qu'elle t'évoque cette musique, Mireille?
Alors je trouve qu'elle est, j'aime beaucoup Trio. Trio, ils sont très investis au niveau de la défense de la nature, de l'écologie. J'ai de plus en plus de mal à utiliser le mot écologie parce que il est tellement dénaturé que voilà, pour moi ça représente la nature, hein, donc c'est très simple. Hein. Et là, ben, ils reprennent un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que on a plein de mauvaises nouvelles tous les jours et que finalement quand on se recentre un peu sur notre propre vie, sur les gens qui vivent autour de nous, et ben en fait voilà, il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses et qu'il faut pas l'oublier, quoi. Oui. Il faut pas se laisser emporter par tout ça et que c'est important, voilà. Les relations humaines.
Ouais, l'amour entre les gens et la relation à l'autre, tout simplement. Alors toi, justement, la relation entre humains, ben, tu accordes toute son importance, hein, parce que tu étais déjà là-dedans, au bige, hein, dans la relation à l'autre, dans l'écoute. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui d'une autre façon dans ton nouveau métier.
Oui, tout à fait. Je trouve que finalement, il y a un lien qui se crée, qui continue, en fait. Voilà, je suis toujours dans l'écoute, parce que les gens parlent beaucoup quand même, hein, sur pendant les expertises. Ils ont beaucoup de choses à dire. Je rentre dans leur intimité, hein, puisque je rentre dans leur maison. C'est pour ça que c'est important aussi de rencontrer, hein. Je fais des salons pour qu'ils puissent me rencontrer, parce que quand on fait rentrer quelqu'un chez soi, il faut avoir confiance, hein, donc c'est important. Et cette écoute, elle est très importante. Elle était importante au bige, mais elle était limitée. Et parce que, en fait, ben voilà, les interventions se faisaient dans le cadre d'une structure, et que ma limite, je la connaissais, hein, c'était important de la voir. Ici, elle est ailleurs, il y a aussi des limites, hein, elles sont très importantes. Je ne suis pas thérapeute, je ne fais pas de thérapie, mais je vais aider les gens, je vais les accompagner, en fait, justement pour qu'ils puissent se prendre en main et aller plus loin dans leur propre choix.
Tu les aides à transformer, puisque ton conseil va peut-être transformer l'intérieur.
Hein. Oui, tout à fait. En fait, ils vont prendre conscience que leur maison, donc, est le reflet d'eux-mêmes, et que dans un secteur bien défini, ça va correspondre à quelque chose. Par exemple, je prends la zone projet, qui est quand même une zone importante, hein, correspond à tous les projets. Cette zone-là, à un moment donné...
Donc, c'est une zone dans la maison.
Voilà,
hein,
c'est
bien
une zone dans la maison.
Dans la maison,
voilà. Et cet endroit, en fait, on va pouvoir la travailler. Chacun va pouvoir, la travailler. Moi, je ne transforme rien. Hein, je leur donne des conseils pour la transformer, mais jamais je ne vais bouger un meuble, un bibelot, etc. Même si je trouve qu'il n'est pas cohérent là où il est, je vais leur dire, mais jamais c'est moi qui vais l'enlever. Hein, c'est à eux de prendre cette initiative. Donc, je vais les aider, je vais les guider, en fait, à comment améliorer leur vie. Et ensuite, c'est eux qui vont prendre en charge cette transformation. Donc, pour certains, ça peut être très rapide. Il y a des personnes, ils vont faire des transformations d'abord immédiates. Ils vont enlever des choses devant moi. Ou alors, dans les semaines qui vont suivre mon passage. Et puis, il y en a d'autres. Ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être jamais. Enfin, voilà, ça dépend de là où ils en sont, de leur transformation.
Ouais. Et c'est une bonne façon de prendre... conscience d'un certain blocage quand on n'est pas en mesure de bouger un bibelot ou un meuble.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme ils regardent leur maison à la place de regarder eux-mêmes, ils savent que c'est un reflet d'eux-mêmes. Mais en même temps, c'est une façon de regarder l'endroit et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire là pour améliorer cette partie-là? Et forcément, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer quand on l'a pas vécu, mais systématiquement, quand il va y avoir une transformation à cet endroit, il y a des choses qui vont se transformer dans leur vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à observer, et les gens me le disent, quoi, que vraiment ça change.
Ça fonctionne. Ouais. Alors toi, tu as des instruments pour mesurer l'énergie d'un lieu.
Oui, alors je vais le tester. Bon, après je vais travailler avec différents outils, des outils de mesure, donc qui sont calibrés, hein, comme les appareils pour les champs électromagnétiques, hein, voilà, c'est étalonné pour tout le monde, c'est la même chose. Au niveau énergétique, on va travailler plus avec l'énergie du lieu, donc on va travailler soit avec le pendule, soit avec les baguettes, enfin chacun va travailler avec son propre outil, et donc on va regarder un petit peu quelle est l'énergie du lieu. Cette énergie, en fait, c'est ce qu'on appelle le rapport cosmotellurique, c'est-à-dire que pour vivre, on a besoin du soleil, c'est indispensable. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Et on a besoin de la terre. Entre les deux, il y a nous. Et nous, en fait, on est influencé par toutes ces énergies. Donc, on va regarder quel est le niveau d'influence entre ces deux niveaux. Quand quelqu'un va pas bien, les personnes sont malades et leur maison, elle reflète ça. Le taux vibratoire dans la maison va être très bas, et ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir travailler pour remonter ce taux vibratoire.
Ok. Donc, le taux vibratoire bas, ça correspond à des ondes négatives quelque
voilà,
part.
Voilà, c'est ça. Moi, je prends toujours cet exemple. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui va pas bien, il vous dit je vais pas bien, voilà, il vous parle, et vous allez partir, vous allez dire pouh là là, il m'a mis le cafard pour la journée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déchargé d'énergie négative sur vous pour s'alléger, parce que lui il en avait trop. Et puis plus loin, vous allez croiser quelqu'un qui va bien, et il va vous redonner le sourire, vous allez partir avec le sourire. Lui, il vous a donné de l'énergie positive. Et bien, en fait, dans nos maisons, on fait la même chose. On dépose du positif, du négatif, les conflits, les décès, les divorces, divorces, les mariages, enfin tout ça. Donc quand il y a trop de négatifs par rapport au positif, et ben à un moment donné ça plombe le lieu. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer, surtout quand c'est pas forcément à nous. Il y a des choses qui nous appartiennent, mais quand la maison a déjà été habitée par d'autres personnes, et ben du coup on va récupérer des influences qui ne sont pas à nous.
On peut acheter une maison où il y a eu un divorce et du coup récupérer des ondes négatives de ce que la maison a vécu avant, en quelque sorte.
Voilà, tout à fait.
Et souffrir de ces ondes-là.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Hein. Les personnes n'en prennent pas conscience, ils le verbalisent pas forcément, mais après mon passage, ils me disent mais d'un seul coup on se sent libéré en fait d'un poids qui n'était pas à nous, on s'entendait bien, puis d'un seul coup on s'est mis à se disputer, on ne comprenait pas pourquoi, et là maintenant on se retrouve enfin nous-mêmes, pas influencés par d'autres choses. Pour moi, le nettoyage énergétique, ça fait partie intégrante de l'expertise, parce que pour moi c'est comme si j'étais maçon et que je laissais les gravats dans la maison en partant. Voilà. Ouais. Donc il faut que je nettoie la maison pour pouvoir la ramener à un taux vibratoire qui soit bon, et que les personnes repartent avec ça, plutôt que ça soit à eux de reconstituer quelque chose.
Ouais. Et quand c'est nettoyé, quand la maison est rééquilibrée, on va dire, énergétiquement, est-ce qu'il y a un petit truc en feng shui que tu pourrais nous donner pour emmener des ondes positives?
Alors, en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ouais, hein, le sourire, etc., parce que ça compte, hein, les disputes, toutes les tensions qu'il peut y avoir sont des choses assez négatives. Après, on va pouvoir travailler aussi avec différents outils. Les pierres, par exemple, hein, sont des outils qui sont intéressants par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est la force de l'intention. Ça, c'est très, très important. On est sur quelque chose... En feng shui, c'est vital. On peut pas. Les gens me disent tiens, est-ce que je peux mettre une grenouille, un Bouddha, enfin voilà, des choses comme ça. Je leur dis vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'important c'est que vous allez poser une intention au moment où vous allez le faire. Oui. L'intention que vous allez poser, c'est ça qui va être l'influence de votre vie. Ben on est dans la même chose de ce qu'on dit depuis le début. Hein, le fait de s'auto-influencer, l'auto-suggestion en fait, pour amener vers quelque chose de positif.
D'accord. Donc si les gens, une fois que tu as nettoyé, rééquilibré la maison, allument la radio, écoute ondes positives en se disant ça va m'emmener plein d'ondes positives.
Voilà.
Et ben ça va fonctionner.
Ça va fonctionner. Il y a aucune raison que ça fonctionne pas.
Ça peut paraître quand même un peu magique de faire quelque chose dans la maison et puis de voir que ça a une incidence sur soi, sur sa santé, sur son bien-être, sur son couple.
Ouais. Et pourtant, ça marche. Ouais. C'est vraiment. Je pense que c'est fait partie aussi moi-même. Hein, j'ai été très étonnée et je le suis encore hein, quand je fais des expertises de voir la réussite par rapport à ça. Mais c'est vraiment étonnant parce que finalement, il y a rien de magique hein, sur le principe de fait de prendre en main sa vie et de modifier des choses. Je prends l'exemple d'une dame chez qui je suis allée et qui avait l'impression de se sentir vieille. Enfin voilà. Et dans sa zone femme, elle avait mis un santon d'une vieille femme avec un panier, tout ça. Et donc, je lui dis, alors au début, j'avais un peu du mal à savoir comment lui dire. Et puis, je lui dis, donc, ça peut représenter, en fait, la perception que peuvent avoir les gens de l'extérieur. Et donc, elle l'a enlevé immédiatement. Et je l'ai revue quelques semaines plus tard. Elle était transformée physiquement. Mmh. Elle était maquillée. Elle avait une reprise en main d'elle-même qui avait été étonnante. Et elle-même n'avait pas conscience que c'était lié à ça. Mmh. Mais moi, je savais que c'était lié à ça parce que c'est la première chose, en fait. Peut-être que c'est ne serait-ce que le fait de lui dire, elle a pris conscience de ce qu'elle pouvait renvoyer comme image, et du coup, elle s'est plus enfermée dans son rôle de grand-mère puisqu'elle était grand-mère, mais elle est redevenue une femme et elle est dans une activité professionnelle. Donc voilà, elle a eu une reprise en main, et ça a été vraiment une transformation. Vous voyez, donc c'est très simple et il y a vraiment rien de magique là-dedans.
Ouais. Hein. Et puis en plus, on peut dire que les anciens, ils utilisaient hein, la géobiologie et aussi le feng shui, parce que finalement, le feng shui, alors, quand on a préparé l'émission, la question qui m'est venue, c'est finalement, est-ce que c'est pas ramener un peu de nature dans la maison ?
C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va revenir. Le feng shui, il est né. Alors, il est né en Asie, hein, il y a très très longtemps. Mais la première chose, c'était l'observation de la nature. Donc en fait, ils observaient la nature et ils disaient, on va pouvoir construire notre maison à cet endroit-là parce qu'elle sera bien placée par rapport aux énergies qui sont ramenées de l'extérieur. Et puis on va travailler au niveau de la forme, au niveau des matériaux pour amener quelque chose de sain. Donc le feng shui, il est basé là-dessus. La géobiologie, elle est née dans nos pays occidentaux. C'était exactement la même chose. On observe, on va pas construire n'importe où, on va pas construire avec n'importe quoi, sous n'importe quelle forme, parce que ça a une influence dans notre vie. Toutes ces énergies sont très influençables dans notre vie.
D'accord. Toi, Mireille, puisqu'on parle de nature, tu adores la nature, tu en as absolument besoin pour vivre.
Ouais, c'est vital. Moi, j'habite dans la montagne, hein, donc dans les arbres, en fait, hein, parce que vraiment la maison, elle est collée à la forêt, et c'est quelque chose qui est indispensable. Des fois, les gens ils me disent, mais pourquoi tu t'installes pas sur Toulouse? Mais j'ai pas envie. Moi, j'ai besoin de me ressourcer auprès des arbres, et quand je rentre chez moi, c'est quelque chose qui voilà, qui me ressource complètement.
Mais c'est un peu normal quelque part parce que la nature, c'est notre habitat premier à nous, êtres humains.
Ouais. Oui, c'est vrai, mais bon, tout le monde se sent pas forcément bien dans ces endroits. Il y a des gens qui sont, ils se sentent bien qu'en ville, parce que je pense que justement, en ville, il y a toujours du bruit, toujours, et toujours de l'activité, toujours du monde. Ça veut dire qu'on se retrouve jamais vraiment avec soi-même. Donc, des personnes vont essayer, elles vont aller faire de la méditation, elles vont aller dans des cours collectifs, encore une fois. Donc, elles sont seules sans être seules. Quand ils se retrouvent dans la nature, ils disent, mais ce silence, c'est envahissant. Ben oui, c'est ça en fait, se retrouver avec soi. Même. Et donc là-dessus, c'est à un moment donné être honnête avec soi-même aussi, quoi. On se retrouve seul et on n'a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit, parce que vraiment, il y a bien un endroit où il n'y a rien à craindre, c'est bien dans nos forêts.
Hein. Ouais. Bon, on écoute ton troisième choix musical, Asaf Avidan, Maybe You Are.
Hospital, he whispered, I ain't got no heart, into the room. She said, I'll make you smile again, and made an airplane out of some pretty words put in a spoon. He said, I'll never see again, my eyes are sort of twisted and words deep into my throat. She said, don't worry, babe, I'll open up your gym, I'll open up my pretty self. Down in this road. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. So every day he'd cry, and in those tears he'd lie to find some peace. She'd break from all his words, but she was made of mercury. She'd come together later, piece by piece. And it became a game they played under the blankets in the bed, pretending she was small and he was big. She became so small he could lift her body and heart and all. He held her up naked. She was just as fair. Just as fair. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are.
Asaf Avidan, Maybe You Are. En quoi elle est positive, cette chanson, pour toi ?
Alors en fait, quand j'ai entendu, j'aime beaucoup cet artiste et en fait, bon, moi je parle pas trop bien anglais, donc j'avais pas forcément compris, donc je suis allée voir un peu la traduction et en fait, il se trouve que c'est une personne qui est détruite physiquement dans sa tête et en fait, elle rencontre quelqu'un qui va lui dire mais si, je vais t'aider quoi, je vais t'aider, t'inquiète pas, on va trouver des solutions et je trouve qu'elle est très positive par rapport à ça.
En quoi tu as l'impression d'aider aujourd'hui les gens à se reconstruire peut-être ou à se construire, à se trouver?
Ben en fait c'est l'ensemble en fait du travail. J'ai l'impression en fait d'être à ma place par rapport à ce que je peux apporter. Parce que en fait je pense que j'aurais pas pu être thérapeute, même si j'aurais pu être attirée par ça, parce que finalement c'est un peu vers là que les gens me tiraient en fait. Hein. Et en même temps, je trouve qu'en passant par la maison, c'est quelque chose qui m'a toujours plu en fait, l'habitat, l'environnement, etc. Et donc en fait, je pense que c'est ça qui est cohérent pour moi, c'est d'arriver à aider les gens tout en les amenant à parler d'autres choses. Et donc en fait, c'est comme s'il y avait un ils allaient focaliser sur leur maison et sur leur lieu d'habitation tout en transformant leur propre vie. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
Hein. Tu me parlais de rêve aussi, de vivre ses rêves. Qu'est-ce que
ouais,
tu
voulais dire? Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi il y a pas mal d'années. Et c'était rêve ta vie, vis tes rêves. Et je trouve que c'est très parlant, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de vivre ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu un rêve de transformation et cette transformation, ben, je l'ai amenée à bout parce que je l'ai voulu quoi et il faut le vouloir et il y a personne d'autre qui pourra le faire à notre place hein. Donc il faut vraiment se prendre en charge et se dire c'est possible. Quand je suis passée par une couveuse d'activité pour créer mon entreprise et dans les personnes qui étaient dans la couveuse, j'étais peut-être celle qui partait avec le moins de chance par rapport à l'activité. Enfin je le voyais bien dans le regard des personnes qui accompagnaient, les autres elles faisaient des choses assez la confiture, de la vente, des choses assez simples quoi. Et finalement à l'arrivée, on est deux à avoir créé quoi, c'est tout. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut y croire. Mm-hmm. Si on y croit suffisamment fort, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
Donc pour en revenir au début de l'émission, finalement les synchronicités, c'est peut-être aussi quand le rêve il frappe à la porte.
Oui, c'est ça. Et simplement il faut l'écouter et puis se dire mais oui, quand on croit qu'il n'y a plus rien qui va être possible, et ben il y a des choses, des pistes qui vont se mettre là et il faut les écouter et finalement en tenir compte. Il faut pas se jeter dans le vide hein, c'est juste il faut écouter et puis petit à petit permettre à la vie de nous laisser une chance de trouver notre place.
Ton entreprise s'appelle l'Agence de l'Homme.
Oui.
Avec un petit jeu de mots.
Voilà, parce que c'est Homme la maison, H-O-M-E.
Oui.
Quand j'ai fait ce stage du home staging, c'est là que ça m'est venu. Et en fait, ça aussi, ça fait partie des choses qui me sont arrivées comme ça. Et en fait, très peu de temps après, peut-être, on va dire 6 mois après, j'ai déposé ce nom au niveau d'Internet, en nom de domaine en fait, parce que je me suis dit ça va être la première base, la première pierre que je vais poser en fait. Ouais. Je savais pas ce que j'allais en faire, hein, mais c'était aussi une évidence hein, ce jeu de mots. Et alors que je connaissais pas encore le Feng Shui, hein, et pourtant c'est ce que ça m'a amené, hein, l'histoire entre l'homme et le home de la maison.
Ouais.
Et finalement, je trouve qu'il est complètement cohérent en fait avec ce que je fais.
Où est-ce que les auditeurs peuvent trouver cette agence de l'homme, agence de
Alors,
home
donc les personnes qui ont Facebook peuvent me trouver sur Facebook en tapant agence de l'homme, ils vont le trouver immédiatement.
Ouais.
Donc en mettant homme H-O-M-E.
Ouais.
Ensuite je peux donner mon numéro de téléphone,
oui,
hein,
si
ils peuvent me contacter.
Ouais.
Donc le 06 60 02 38 61.
Oui.
Voilà.
Donc toutes ces coordonnées seront reprises sur le podcast de l'émission.
Et puis le site internet www.agencedelhomme.com, voilà, où il y a toutes les informations, puisque je travaille sur tout Midi-Pyrénées.
Donc Montauban et
bien sûr,
tout le Tarn-et-Garonne.
Voilà.
D'accord. Merci Mireille pour ton témoignage.
Bien, merci de ton accueil.
Et pour tout ce que tu fais de positif au quotidien aussi.
Bien, merci bien.
Je te laisse rejoindre tes montagnes ariégeoises et ta nature dont tu as tant besoin.
Merci.
Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission samedi à 21h et en podcast sur cfmradio.fr. Et si vous voulez vous aussi venir témoigner de vos expériences positives, contactez-moi par mail dorothee.alio@hotmail.com ou sur la page Facebook Ondes Positives CFM Radio. Je vous souhaite une belle semaine positive et à mardi.